VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
John Linden en direct du studio d'œuf de VOA Afrique à Washington. Le monde aujourd'hui, édition du lundi 1er janvier 2018. Excellent début d'année à toutes et à tous. À la une ce soir, une loi d'entente nationale au Mali. Annonce faite hier à la nation par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Début d'année sanglant en RDC où 8 personnes sont mortes hier et une centaine d'autres arrêtées. La francophonie dénonce des attaques inqualifiables. La Mauritanie a une nouvelle monnaie, l'Ogiwa, est entrée en circulation ce lundi, obligeant de nombreuses banques à ouvrir exceptionnellement. Prier pour un avenir de paix en 2018, y compris pour les migrants et réfugiés, c'est l'invitation du pape François aux fidèles catholiques. Et dans 10 minutes, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Le gouvernement malien va proposer une loi d'entente nationale. Si les contours de ce projet de loi ne sont pour l'instant pas connus, Ibeka trouve qu'il apporte un apaisement, une réinsertion des combattants qui déposeront les armes et l'exonération de poursuite de tous ceux qui sont impliqués dans une rébellion armée. Plus de précisions avec Kassim Traoré.
En se basant sur les recommandations issues de la conférence d'entente nationale qui s'est tenue en mars et avril 2017, Ibrahim Boubacar Keïta propose un projet de loi sur l'entente nationale. Il trouve que la charte pour la paix, l'unité nationale et la réconciliation issue des conclusions de la conférence d'entente reconnaît les causes profondes de la crise que le Mali a connue depuis son indépendance. Ibrahim Boubacar Keïta.
La charte propose des mesures spéciales de cessation de poursuite ou d'amnistie en faveur de certains acteurs de la rébellion armée de 2012. Suivant ces recommandations, je ferai initier dans les semaines qui viennent un projet de loi sur l'entente nationale. Ce texte proposera notamment l'exonération de poursuite de tous ceux impliqués dans une rébellion armée, mais qui n'ont pas de sang sur les mains, des mesures également d'apaisement pour l'accélération des procédures en cours et les réparations accordées aux victimes reconnues. Un programme de réinsertion pour tous ceux qui déposeront les armes et s'engageront publiquement à renoncer à la violence.
Au président malien d'ajouter que son projet de loi n'est ni un aveu d'impuissance, ni une prime à l'impunité. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'année 2018 commence donc et comme de tradition, de nombreux chefs d'État se sont adressés à leur peuple. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé dimanche la tenue d'élections législatives en 2018. Prévues depuis 2015, elles ont été plusieurs fois repoussées. Il me paraît d'annoncer à l'orée de l'année nouvelle que des élections législatives seront organisées en 2018, a déclaré le président Déby dans un discours retransmis à la télévision nationale. Le président camerounais Paul Biya a déclaré lors de son discours de nouvel an qu'il était de son devoir d'éveiller à l'ordre républicain alors que le pays est en proie à une grave crise séparatiste dans les deux régions anglophones du pays. Des membres de la minorité anglophone du pays, environ 20% des 23 millions d'habitants protestent contre sa marginalisation depuis plus d'un an. Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme, d'autres réclament la partition du Cameroun. Deux scénarios que refusent catégoriquement Yaoundé. Plusieurs personnes, y compris des membres des forces de sécurité, ont perdu la vie dans ces régions ces dernières semaines. Quant au président gabonais Ali Bongo Ondimba, il a annoncé lors de ses vœux du 31 décembre dimanche vouloir mettre en œuvre un changement radical de gouvernance et vouloir faire de la cohésion des Gabonais son ambition. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, lui, a souligné sa volonté de transformer l'armée en une force véritablement républicaine après une année 2017 marquée par des mutineries. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a promis de renforcer son armée qui fait face à des groupes djihadistes responsables d'attaques meurtrières et récurrentes. Au Burkina Faso, le colonel Auguste Denise Barry, ministre de la Sécurité sous la Transition, a été arrêté vendredi dans le cadre d'une enquête. On lui reproche d'être mêlé à une tentative présumée de déstabilisation du pouvoir. Yacouba Ouédraogo, jusque-là, on en sait très peu.
Les sources sécuritaires se contentent de confirmer que le colonel Auguste Denise Barry a été arrêté dans le cadre d'une enquête. D'autres sources, selon le journal en ligne lefaso.net, ajoutent qu'il est soupçonné d'être mêlé à une tentative présumée de déstabilisation du pouvoir de Roch Kabore. Dans le cadre de cette même enquête, l'ex-chef d'état-major adjoint de la gendarmerie, le colonel Serge-Alain Ouédraogo, a été entendu puis relâché dimanche. Éphémère ministre délégué chargé de la sécurité sous Blaise Compaoré, le colonel Barry avait rempilé au poste en tant que ministre plein sous la transition. À l'époque, certains le présentaient comme le cerveau de l'homme fort du moment, l'ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida. Accusé de plusieurs coups tordus sous la transition au profit de son mentor Zida, le président Michel Kafando a été obligé de l'éjecter du gouvernement. Dans son retranchement, le colonel Barry a créé, avec certains de ses compagnons, le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité, une sorte de think tank basé à Ouagadougou.
En RDC, au moins 8 personnes sont mortes hier et une centaine d'autres ont été arrêtées à marge de manifestations de catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Le président congolais qui a assuré que la publication de l'échéancier autant pour moi qui prévoit la tenue de la présidentielle au 23 décembre 2018 conduit de manière irréversible vers l'organisation des élections. Mais pour les catholiques congolais qui ont manifesté hier, ces discours ne passent pas, un accord ayant été signé il y a un an sous l'égide des évêques et qui prévoyait des élections en fin 2017. Le mandat du président Kabila s'étant achevé en décembre 2016. Toujours en RDC et en rapport avec ces événements de dimanche, la francophonie a dénoncé ce lundi les attaques inqualifiables et désolantes contre des fidèles et des citoyens, exhortant les autorités de ce pays à garantir le droit de manifester. Participer à une manifestation est un droit fondamental, a déclaré la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, dans un communiqué. La nouvelle monnaie mauritanienne est là, l'ougia a amélioré et est entrée en circulation aujourd'hui, obligeant de nombreuses banques à ouvrir exceptionnellement en cette nouvelle année. Plus de détails avec Raïssa Girondin.
5 semaines après l'annonce du président Mohamed Ould Abdelaziz lors de la fête de l'indépendance du pays, la monnaie mauritanienne a changé d'unité. À partir d'aujourd'hui, 10 ougias devient un ougia. Un changement majeur qui pousse la Banque centrale de Mauritanie au retrait progressif sur le marché des anciens billets et pièces. Après avoir démenti les rumeurs de dévaluation de l'ougia, la BCM assure qu'il conservera sa valeur et le pouvoir d'achat des citoyens ne s'en ressentirait pas. Son principal leitmotiv, protéger la monnaie nationale contre la falsification en la remplaçant par des séries plus fortes et plus sûres. Les Mauritaniens se rendent donc dès aujourd'hui au guichet des banques pour échanger leurs anciens ougias contre de nouveaux. L'ougia a perdu ces derniers mois de sa valeur au marché noir face à l'euro et au dollar, mais la tendance s'est aggravée depuis en raison d'une hausse de la demande de devises.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a averti Washington qu'il avait le bouton nucléaire à sa portée. Il a néanmoins tendu la main à Séoul, évoquant une possibilité de dialogue et de participation au JO de Corée du Sud. Dans son adresse du Nouvel An, le numéro 1 nord-coréen a conservé une attitude des défis après une année de tensions croissantes provoquées par la multiplication par Pyongyang des tirs de missiles balistiques. Un adolescent américain a tué ses parents, sa sœur et une amie de la famille à coups de fusil semi-automatique peu avant les 12 coups de minuit dimanche dans l'état du New Jersey, selon les autorités locales. Le jeune homme, dont l'identité n'a pas été officiellement révélée par les autorités, s'est rendu à la police sans offrir de résistance. Les autorités n'avaient pas dans l'immédiat d'explication pour le geste du jeune tireur. Considéré comme adulte par la justice, il devrait être inculpé pour meurtre ainsi que possession d'armes. En Iran, 12 personnes ont été tuées depuis le début, il y a 5 jours, des protestations anti-gouvernementales. Bagassi Koura, ces manifestations ont été, dit-on, suscitées par des difficultés économiques.
Oui, depuis jeudi, des manifestants descendent dans les rues du pays contre la vie chère et contre le pouvoir. Ce dimanche soir, 2 personnes ont été tuées et d'autres blessées à Izé lorsqu'ils ont voulu manifester comme ailleurs dans le pays. Je ne sais pas si les tirs provenaient de forces de l'ordre ou des manifestants, a dit un député local cité par l'AFP. Toujours dimanche soir, deux autres personnes ont péri dans la ville de Dorudo, dans l'ouest du pays, dans un incendie lié indirectement aux manifestations. Deux autres personnes ont été tuées samedi soir dans cette même ville, mais le vice-gouverneur de la province avait affirmé que les forces de l'ordre, les violences de dimanche soir ont eu lieu malgré un appel du président Hassan Rouhani au calme. L'Iran a de son côté dénoncé les ingérences des États-Unis dans ses affaires. Le président Trump a en effet apporté son soutien aux manifestants via Twitter.
Le pape François a invité lundi les fidèles catholiques à prier pour un avenir de paix en 2018, y compris pour les migrants et réfugiés, à l'occasion de sa première bénédiction de l'Angélus cette année. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Bagassi Koura.
Le gouvernement congolais a présenté la semaine dernière le projet de loi de finances 2018 avec des dépenses en baisse de 7,6% après avoir réduit le budget 2017 de 44%. Le Conseil des ministres a adopté le 27 décembre le budget 2018 qui atteint 1603 milliards de francs CFA en recettes et 1384 milliards de francs en dépenses. Ce projet de loi des finances 2018 prévoit de réaliser un excédent budgétaire chiffré à plus de 200 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le premier centre incubateur, dont le bâtiment a coûté 350 millions de francs CFA, va ouvrir ses portes à Abidjan au premier trimestre de cette année, a indiqué le ministre ivoirien du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarasouba, cité par Fraternité Matin. Ce centre incubateur va permettre aux porteurs de projets et aux entreprises en quête de performance d'avoir des connaissances nécessaires afin de poursuivre leurs activités. Comment se sont comportées les bourses africaines l'année dernière? Eh bien, en 2017, la plupart des actions ont connu une évolution positive, à l'exception de la Bourse régionale des valeurs mobilières en Afrique de l'Ouest, qui concerne les entreprises dans la zone UEMOA. Selon Jeune Afrique, la BRVM, basée à Abidjan, a connu un recul de 20% au 27 décembre, après avoir chuté de plus de 9% en 2016.
Une musique qui ne trompe pas l'infatigable Yakuba Ouidraogo est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par Liverpool qui gagne sur le fil à Burnley.
Tout à fait, John, en l'absence de l'Égyptien Mohamed Salah et du Brésilien Philippe Coutinho, blessé, les Reds ont décroché à la 94e minute une victoire précieuse contre Burnley. Un but en toute fin de rencontre du défenseur Ragnar Klavan a sauvé Liverpool du nul, car entre-temps, Burnley a égalisé à la 87e. À noter l'ouverture du score signé Sadio Mané à la 60e. Dans les autres rencontres, Manchester United s'est imposé devant Everton 2-0. Leicester a renoué avec la victoire en infligeant un 3-0 au premier Huddersfield. Newcastle est allé gagner à Stoke 1-0.
Toujours en Angleterre, Lukaku sera finalement absent une semaine.
C'est ce qu'a indiqué son entraîneur José Mourinho. L'attaquant de Manchester United a été heurté à l'arrière du crâne samedi lors d'un duel aérien. Romelu Lukaku était alors sorti sur civière avec un casque à oxygène. Plus de peur que de mal, il pourra être aligné le 15 janvier contre Stoke City.
Une fenêtre sur le mercato d'hiver qui s'est ouverte aujourd'hui. Sambasso a décidé de plonger avec le Dynamo Moscou.
Visiblement, l'international malien se sent bien dans la capitale russe. Arrivé l'été dernier au Dynamo Moscou en provenance de Kayserispor, Sambasso y est déjà un pilier. Six mois après, l'ancien milieu de terrain de Lens, 28 ans, a donc paraffé un nouveau contrat selon l'équipe.
Karamboge, lui, est indécis pour le moment.
Je ne sais pas si je vais terminer la saison ici, a affirmé le défenseur international sénégalais qui connaît une saison mouvementée avec Anderlecht. La cause, des blessures notamment au talon d'Achille. Le contrat de Karamboge court jusqu'en juin 2020 avec les Mauves, mais le Lion de la Teranga n'exclut pas un départ cet hiver.
Ahmad, personnalité sportive de l'année.
C'est le choix du groupe All Africa Global Media, basé à Washington. D'après ce groupe, le Malgache est récompensé pour les initiatives déjà menées depuis son arrivée à la tête de la CAF, notamment la réforme des compétitions majeures, dont la CAN, l'organisation du symposium de Rabat, mais surtout l'aide financière accordée aux pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde 2018.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Lyndon, mis en onde par Lionel Gaïma. Place à présent au dossier du jour. Et on commence par le Cameroun, où la précarité s'accroît de plus en plus au sein des couches vulnérables. Le constat est du gouvernement camerounais est parmi les couches les plus touchées. Il y a les personnes handicapées, mais certaines ne baissent pas les bras et se battent pour être actives ou autonomes. C'est le cas des femmes handicapées de Handicap Home à Yaoundé. Notre correspondant Emmanuel Juntap leur a rendu visite.
C'est au lieu-dit Escale Manguier qu'est implanté Handicap Home. Une vingtaine de femmes handicapées formées à divers métiers ont été regroupées sur le site. Marie-Crescence Epi vit avec un handicap. Elle est aussi déléguée de Handicap Home à Yaoundé.
Papa Roger Mila nous a offert 16 ateliers. On ne paie ni loyer, ni courant. Nous sommes libres de nous-mêmes. On travaille selon les commandes.
Ces femmes handicapées occupent des conteneurs soigneusement aménagés en salon de coiffure, restaurant boutique, atelier d'artisanat et de couture. Corinne et Christelle, les deux plus jeunes de l'atelier de couture, reviennent de loin.
Comme moi, il reste au quartier, donc je ne savais pas là où il devait faire ma couture. La petite couture, donc, ça m'aide à gérer mes petites choses que j'en ai besoin.
Ambassadeur itinérant Roger Mila, il nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait. On a donc dit qu'on voulait un site pour s'installer, pour pouvoir travailler. Je résous mes problèmes par rapport à cette structure. C'est un peu comme quand j'étais à la maison.
L'on en dirait autant de Monique qui, béquille aux aisselles, coiffe à merveille et forme des personnes valides et invalides depuis 5 ans à la coiffure.
Présentement, j'ai 3 qui suivent la formation. Je suis autonome, je me sens à l'aise. Je fais dans la coiffure, je fais même l'esthétique. Quand les gens viennent, ils me payent.
Au Cameroun, les enfants en détresse, les personnes âgées, les handicapés sont considérés comme des couches vulnérables. L'ex-footballeur international Albert Roger Mila s'est mis aux côtés de cette catégorie de Camerounais à travers sa fondation Cœur d'Afrique. Jean Keller Côté, directeur de projet de la fondation Cœur Afrique.
Nous allons au-delà de ce que fait le ministère des Affaires sociales. Nous avons une grosse composante orphelins enfants vulnérables. Nous avons une composante enfants de la rue. Nous avons les personnes âgées. Nous avons une importante composante de personnes handicapées. Nous avons de façon spécifique les anciens sportifs en situation de vulnérabilité que nous accompagnons.
Il reste que le nombre de personnes vulnérables en attente d'assistance au Cameroun est de plus en plus croissant. Le gouvernement dit s'en préoccuper, mais sous certaines conditions. Henri Yambi Troadikoso, directeur de la Solidarité nationale, au ministère des Affaires sociales du Cameroun.
Quelle que soit la nature de l'aide qu'on sollicite, adresser sa demande à une de nos unités techniques opérationnelles ou directement à la commune de résidence et attendre que la demande puisse être examinée dans le cadre d'un comité local d'attribution des aides.
Une démarche qui, pour certains Camerounais, est de nature à accroître davantage la vulnérabilité des couches vulnérables du pays. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En RDC, les habitants de Lubumbashi sont inquiets de la détérioration très avancée de la voirie urbaine. Pendant cette période pluvieuse, les nids de poules et les flaques d'eau perturbent la circulation. Résultat, les propriétaires de véhicules sont contraints de payer plusieurs taxes au trésor public et doivent faire face aux barricades érigées sur les routes et au recouvrement forcé des taxes. Malgré tout cela, la réhabilitation de la voirie ne suit pas et beaucoup se demandent: où va l'argent récolté? Narval Mabila.
C'est lui qui a des yeux pour voir, a fait un constat chaque jour qui passe. La voie urbaine de la ville de Lubumbashi se détériore de plus en plus, et cela où plusieurs endroits du centre-ville. Avenues, chaussées, boulevards sont affectés, rendant ainsi les transports difficiles, car les nids des poules sont au rendez-vous à plusieurs endroits pendant cette période pluvieuse. Là, nous sommes sur la chaussée de Kasenga au quartier Bel Air Mukala Kimuchi, où la chaussée est presque impraticable, car l'un est usager de la route, il est à notre micro à bord de son véhicule, et cela fait débat.
Bon, la route est tellement impraticable, hein. Vous ne voyez pas le nid des poules partout. Le nid des poules, c'est partout. C'est dû à la pluie. Vous savez que l'ennemi de la route, c'est la pluie. Nous sommes pendant la saison pluvieuse, mais l'État ne savent quoi faire. Nous payons les taxes. Il y a plusieurs taxes. Il y a la patente que nous payons. Il y a le vignette, le contrôle technique. Il y a plusieurs taxes que l'État a créées dans le but de pouvoir arranger la route. Mais jusque-là, la route est tellement impraticable. Ce n'est pas toujours ici, presque sur toute l'étendue de la République.
Même situation dans la commune Katouba, sur le boulevard Katouba, où nous avons croisé M. Lievin Kamwanga, qui revient sur la détérioration de la route.
Il y a un problème. Au niveau de la rivière, là, la route est coupée. Et les gens ne savent pas bien se déplacer, puisque quand il y a la pluie, les véhicules n'acceptent pas d'accéder à Katouba. Ils s'arrêtent au niveau Mampala pour prendre les gens par là et rentrer en ville. Donc, il y a un problème qu'on doit résoudre. Et puis la route qui va de la Katouba vers la Kenya, au niveau du marché, la route est en train de se corroder. Donc, il y a des petits problèmes à arranger. Les transports font problème quand il y a la pluie. Le problème des tranchées, le problème des petits trous qu'on n'arrange pas rapidement, et finalement ça devient un problème.
De retour au centre-ville, au croisement de l'avenue Moro et Kapenda, un chauffeur de taxi fait son constat.
On est en train de détruire notre véhicule, on abîme les véhicules de temps en temps, ce n'est pas bien. En tout cas, on est en train de regretter notre gouvernement parce qu'on est en train de payer, on paye des vignettes, on paye tout ce qu'on peut demander, on paye même. Pour ranger la route, vraiment c'est compliqué. Quand il pleut comme ça, on ouvre même les installations sanitaires, ça nous embête vraiment. En ville, vraiment. À l'époque de Moïse, on ne voyait pas ces désordres comme ça. Les gens même se plaignent que non, Moïse en tout cas, il était un monsieur.
Face à cette situation de la détérioration de la voie urbaine, nous avons joint le gouverneur Pande Kapopo par téléphone et son ministre des infrastructures Nazem Nazembe et son directeur provincial de l'office de voirie et drainage. Ils se sont réservés de tout commentaire que cache leur silence. Et notre constat est que le tronçon de l'avenue Kamagnola est en réhabilitation parce que le président Joseph Kabila y passera pour inaugurer la réhabilitation du building administratif de la Générale des Carrières et des Mines. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Burundi, le prix de l'électricité a doublé pour tous les Burundais. Soudeurs, électriciens et autres petites gens demandent au gouvernement de revenir aux anciens tarifs car ils travaillent désormais à perte. Le Burundi produit 40 mégawatts pour un potentiel estimé à plus de 1500 mégawatts. Reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza.
6e avenue du quartier de Bouyanzi au centre-ville de Bujumbura, il est 10h GMT quand un technicien est en train de souder juste à côté de la rue. La hausse du prix de l'électricité fait considérablement fuir les clients car le prix a augmenté même pour les constructeurs de petites portes ou de petites fenêtres en fer. Témoignage de cet électricien.
Si par exemple une porte pour le construire ça demande au moins 15 000 et si je le dis... Non, il y a au moins les hausses de prix de courant. Je lui dis au moins 50 000. Il dit non. Là, c'est beaucoup. Il va laisser pour aller faire la construction des matériels de bois.
Donc, il y a des conséquences dans votre travail de tous les jours.
Ah oui, il y en a beaucoup.
Ce garagiste estime, quant à lui, que dans un futur proche, ça sera un sérieux problème entre clients et garagistes, car il est difficile de parler d'une même voix, les intérêts divergents.
Si les francs, c'est tout quoi, tout nanounoua.
Avant, on payait pour les 150 kW à air 13 000 francs, mais aujourd'hui, nous payons 3 fois plus. C'est un sérieux problème pour nous. Avant, on faisait payer une baguette pour souder 500 francs. Aujourd'hui, nous demandons aux clients de payer 2 000 francs à cause de cette hausse des prix de l'électricité. On ne gagne presque rien. Nous demanderions de revenir aux anciens tarifs, car ça serait mieux. Par exemple, un appareil où on soudait par 5 000 francs, aujourd'hui, nous demandons 10 000 et les clients n'acceptent pas ce prix. ça devient un sérieux problème car il n'y a pas d'entente entre les clients et nous les soudeurs.
Pour l'économiste Faustin Ndikumana, ces nouveaux tarifs prouvent le manque de vision de politique de développement économique et de mauvaise gestion du secteur énergétique. Il indique que le Burundi vient de faire plus de 30 ans sans construire un seul barrage énergétique. Il estime aussi qu'il n'y a pas eu de modernisation proportionnelle à la demande. Ce juriste qui a requis l'anonymat ne mâche pas ses mots en disant que le pays s'enfonce dans une crise sans précédent.
Non, c'est la catastrophe. Vous parlez de la hausse de l'électricité, mais c'est la hausse de tous les produits. S'agissant de l'électricité, dès que vous contactez ces gens qui ont besoin de l'électricité pour la soudure, qui ont besoin de l'été pour la conservation des produits comestibles, c'est la catastrophe. Ils ne peuvent plus rentrer dans l'œuvre. Tous les produits, ça monte à cause de cela. Les ménages ne mangent plus deux fois par jour. C'est vraiment la catastrophe. Si le décideur ne fait rien, on va tout droit dans le gouffre.
Bien des spécialistes affirment que les produits comme les panneaux solaires sont indisponibles et que dans les autres pays de la région, ces produits ne sont plus taxés. Il est à signaler également que le Burundi ne produit qu'un 1/40 du potentiel électrique total. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Lionel Kaïma. Alfredo Santos était à la console. Présentation John Linden. Merci à toute la rédaction pour sa collaboration et à vous pour votre fidélité au programme de VO Afrique. Bonne année à toutes et à tous.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis appuient les forces de l'ordre du Sénégal à travers un don de matériel non létal à la police nationale de ce pays. Lors d'une cérémonie le 20 décembre à l'Académie nationale de la police sénégalaise, l'ambassadeur américain au Sénégal, Tulina Bomushingi, a déclaré que les États-Unis comptaient sur le Sénégal comme partenaire crucial dans la région et sur la police comme un rempart vital. Le terrorisme reste un fléau que nous devons continuer à combattre et ce matériel constitué d'ordinateurs, de projecteurs, des lunettes de vision nocturne, de kits de scène de crime et d'équipements de protection apportera un soutien supplémentaire à la mission de la police nationale. Il a noté récemment que le bureau régional de la sécurité de l'ambassade et le bureau du contre-terrorisme et de la lutte contre l'extrémisme violent du département d'État ont récemment conclu une série de formations contre le terrorisme. Elle visait à aider à mieux protéger les cibles vulnérables par une assistance à la communauté des forces de l'ordre sénégalaises et des premiers intervenants, y compris le mécanisme inter-institution de coordination des opérations antiterroristes établi par décret présidentiel l'année dernière. Au total, environ 110 personnes ont bénéficié des récentes formations fournies dans le cadre d'un engagement significatif des États-Unis en faveur du Sénégal. Le dernier don américain d'une valeur de près d'un demi-milliard de francs constitue une contribution significative au partenariat en cours. Paraphrasant les propos du président sénégalais Macky Sall lors du Forum pour la paix et de la sécurité, l'ambassadeur Mushingi a déclaré que la nécessité des solutions intégrées dans la région a été soulignée. La formation et l'équipement sont au cœur de la solution intégrée et nous sommes heureux de fournir cet équipement protecteur et didactique au gouvernement du Sénégal dans la recherche des solutions intégrées. À cette fin, nous sommes heureux de renforcer la police et en particulier tous les premiers intervenants dont nous dépendons pour l'action en cas de trouble ou d'attaque délibérée, a déclaré l'ambassadeur Mushingi. À nos amis de la police nationale et aux autres services de sécurité sénégalais, merci pour votre aide. Nous espérons que cet équipement vous aidera dans votre mission.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.